Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Yann Hamon. Il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Il est avec nous en direct pour parler politique ce matin. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs.
Alors nous allons donc entrer dans le vif, si j'ose dire, après une longue attente. Un Premier ministre, Michel Barnier, j'allais presque vous poser la question un peu à brûle pour point, est-il écolo-compatible ?
Michel Barnier ?
Oui.
Il paraîtrait qu'il avait une certaine sensibilité écologiste à l'époque de Jacques Chirac, mais bon, on est quand même en train de remonter au RPR avec Michel Barnier, aux années 90, et voilà, Jacques Chirac il nous a fait un très beau discours sur notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Le côté... environnemental de tous les gouvernements auxquels Michel Barnier est nombreux, hein, Balladur, sous Chirac, sous Sarkozy, le côté environnemental de ces gouvernements ne m'a pas frappé.
Mmh. Alors, il y a eu cette longue attente, après une séquence politique assez longue aussi, puisque nous avons eu les élections européennes, puis cette dissolution, les législatives, et cette longue attente pour trouver un Premier ministre qui pourrait ne pas être renversé, en tout cas son gouvernement, par une motion de censure. Est-ce que pour vous, c'était trop long, cette attente, malgré les Jeux Olympiques, malgré cette trêve olympique? Est-ce que c'était trop long? Est-ce qu'il fallait tout de suite entrer dans le vif de la politique?
Alors, la question de l'attente... Emmanuel Macron a choisi de faire une dissolution.
Mmh.
Personne ne lui a rien demandé, en l'occurrence peut-être Bardella et Marine Le Pen qui ont vaguement évoqué le sujet, mais à gauche personne ne lui avait demandé de faire une dissolution à ce moment-là. À partir du moment où lui prend sa décision, c'est quand même très étonnant de derrière dire bah, on a dissous mais on ne peut pas nommer de gouvernement parce que c'est les Jeux Olympiques. Ça c'est le choix, l'un des nombreux choix curieux et pas le pire du président de la République dans la période. Voilà. Après, la question, c'est pas tellement la question de l'attente, c'est les raisons qui justifient cette attente, c'est-à-dire une pseudo-stabilité, et en fait le refus de nommer la gauche,
mmh.
parce que c'est ça. Emmanuel Macron a perdu cette élection, je crois que c'est le message le plus net qui ressort des urnes, enfin il y en a trois hein, qui sont sortis, forte mobilisation des Français pour dire qu'on veut changer de politique, trois quarts en gros des gens demandaient une cohabitation. Derrière, rejet du Rassemblement National, c'est-à-dire que le Front Républicain dont on disait qu'il était affaibli a très bien fonctionné cette fois-ci. Donc voilà, volonté de repousser, de ne pas laisser le Rassemblement National prendre les manettes. Et puis, quand même, victoire de la gauche du New Grand Front Populaire qui est arrivé en tête. Emmanuel Macron n'a retenu aucun de ces trois éléments, puisqu'on va avoir la poursuite du macronisme sous la surveillance de l'extrême droite, qui a été rejetée par les Français et maintenant qui devient faiseuse de ministre et qui devient le soutien sans participation, mais... le soutien objectif, et d'ailleurs Marine Le Pen l'a très bien dit, le gouvernement Barnier sera sous surveillance du RN, mais c'est formidable.
Voilà, donc si il y a motion de censure, elle pourrait venir du RN, si finalement Michel Barnier ne se plie pas à cette politique imaginée par le Rassemblement National.
Voilà, et on sent qu'il donne tout de suite des gages à l'extrême droite avec cette histoire de ministère de l'immigration.
Voilà, je vais y venir justement.
Donc, on est en plein scandale démocratique, hein, faut être clair. C'est-à-dire que là, on est en train de céder à l'extrême droite que les Français ont rejetée. L'instabilité politique dans laquelle nous jette Emmanuel Macron, Michel Barnier est un acteur volontaire, mais c'est quand même Emmanuel Macron qui est responsable de tout cela, est absolument effrayante. C'est-à-dire que Marine Le Pen a maintenant le bouton et pourra, quand elle le souhaite, décider de faire sauter ce gouvernement et de, peut-être potentiellement, on ne sait pas si le budget va être voté, par exemple. Donc là, on nous vante une histoire de stabilité. Il y avait une solution beaucoup plus simple hein, pour trouver de la stabilité, nommer Lucie Castet et demander aux députés ensemble, sans forcément soutenir toutes les mesures, mais de discuter avec le NFP et de ne pas censurer a priori, parce que c'est ça. Le centre a décidé qu'il fallait censurer a priori le nouveau Front Populaire. Bon, à partir de là, il préfère gouverner sous la surveillance de l'extrême droite. Ça va être compliqué hein, pour expliquer ensuite aux électeurs de gauche qu'il faut aller faire un Front Républicain. Enfin, là, on est en train de mettre en place toutes les conditions pour une victoire de Marine Le Pen aux prochaines présidentielles, j'ose plus dire 2027, parce que c'est pas certain qu'on aille jusque-là.
Alors justement, cette possible instabilité, elle est aussi accrue par l'instabilité économique. On voit la France aujourd'hui très endettée. On a entendu Bruno Le Maire s'exprimer hier devant les parlementaires en disant « Oui, finalement, le prochain gouvernement aura à gérer cette dette, hein, si on veut un petit peu résumer de façon assez triviale. » Est-ce que là aussi, ça ajoute de l'angoisse? On voit des services publics aujourd'hui, on pense à l'hôpital, qui ont du mal à vivre et qui ont du mal à assumer leur mission. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également?
Alors, bon, déjà, Bruno Le Maire, je ne sais pas, c'est un homonyme de celui qui est à l'économie depuis 7 ans, c'est ça? C'est le romancier, c'est lequel? Parce que venir nous expliquer qu'on a un gros problème de dette, alors je veux bien qu'il y ait eu le Covid, mais il y a aussi eu, en gros, 40 milliards par an de cadeaux fiscaux, essentiellement aux plus riches et aux grandes entreprises. Et c'est ça qu'on paye dans la situation économique actuelle. Hein. Vous enlevez 40 milliards par an, là, on commence à avoir sérieusement diminué la dette. Donc c'est aussi ce qu'on proposait au nouveau Front Populaire. Revenir sur un paquet d'allègements fiscaux et de baisses d'impôts sur le capital pour permettre de financer les services publics. Je crois que les Français, leur problème quotidien, c'est beaucoup plus l'état de l'hôpital, l'état de la santé dans les zones rurales, les écoles où on voit là, il y a un collège et un lycée sur deux où il manque au moins un professeur. On est dans une situation où on a laissé gentiment s'effriter pour des raisons d'économie à courte vue, pour des coups de rabot successifs, pour permettre de financer des baisses d'impôts pour les plus riches, essentiellement. On a diminué l'état de nos services publics. C'est ça, d'abord, qui interroge les Français. Après la dette, il y a donc une part de Covid. On est à un niveau d'endettement, effectivement, sur lequel il faut agir.
Plus de 3000 milliards d'euros.
Oui, hein. Plus de 3000 milliards d'euros. Mais attention, on a derrière un patrimoine en France qui est extrêmement important. Mmh. On a des pays, voilà, aux États-Unis, ils sont à 7% hein, d'endettement, avec une dette bien supérieure. Au Japon, c'est pareil, ils sont à plus de 200% de PIB. Donc, dans les grandes économies, il ne faut pas non plus paniquer. On n'est pas en Grèce. Maintenant, on a une trajectoire à respecter qui va demander... Bah, soit des coupes budgétaires, donc ça c'est ce que nous prévoit Barnier probablement, c'est-à-dire encore des coups de rabot. Là on a vu sur le fonds vert, sur la transition écologique, voilà, les maires qui avaient des projets de rénovation d'écoles, de création de pistes cyclables, qui voient le fonds vert assécher, parce qu'on demande de faire des économies aux collectivités, bah, on supprime les derniers budgets, donc on supprime ce qui devait financer la transition écologique.
Les collectivités,
est-ce que c'est ça qu'on va faire ?
Collectivités qui ont été pointées du doigt par Bruno Le Maire en disant, voilà, elles ont explosé les plafonds, les 16 milliards de plus, c'est leur faute finalement.
Bah, c'est-à-dire qu'on leur transfère des compétences en plus, on le voit bien avec le Conseil départemental des Côtes-d'Armor, on leur transfère une dette sociale, et puis derrière, on leur demande d'accomplir de plus en plus de missions. Et puis, derrière, on supprime les budgets, on dit « Ah, mais vous avez dépassé les plafonds ». C'est absolument scandaleux. C'est pas sur les collectivités locales qu'on fera le plus d'économies. Là encore, il y a d'abord une question de redistribution des richesses.
Alors, la redistribution des richesses, le mieux vivre aussi, parce qu'il y a aussi cette demande des Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais qui voudraient aussi mieux vivre. Et puis, il y a cette inquiétude. Alors, peut-être un peu plus des jeunes générations en ce qui concerne le changement climatique, en ce qui concerne l'environnement. Il faut mettre le paquet là-dessus. Si demain la gauche arrive au pouvoir, si demain il y avait une autre dissolution, c'est là-dessus qu'il faut axer les politiques.
Bah, on a deux urgences en parallèle. Donc on a besoin de régler les questions de fin de mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser toute une partie de la population, notamment des travailleurs, être en difficulté à partir du 10 du mois. Ça, c'est très clair. Donc ça veut dire réorganiser, augmenter déjà les salaires de base, permettre avec... On peut faire les deux, hein. C'est-à-dire que quand nous, on propose par exemple de donner les premiers mètres cubes d'eau gratuits, donc ça veut dire qu'on va faire des économies à ceux qui sont vertueux, qui font un effort pour faire des économies d'eau, et en même temps, c'est bon pour la planète. Donc on a aussi des politiques comme ça qui vont permettre de vivre mieux, de redonner du pouvoir de vivre à l'ensemble des citoyens. Il faut aussi, bien sûr, investir sur l'avenir. Je veux dire, quand on fait des investissements dans la transition écologique, quand on fait des investissements sur les économies d'énergie, sur le changement des mobilités, en fait, on fait faire à terme des économies considérables à l'État français, on fait faire des économies considérables aussi aux Français eux-mêmes. Donc ça, c'est des investissements, c'est de la bonne date, si vous voulez.
Alors, on a aujourd'hui un climat, justement, on a vu ces derniers jours de violents orages, des inondations un peu partout dans le monde, et particulièrement ici chez nous en France, on pense au sud-ouest de la France. Le changement climatique est là. Est-ce que les prochains gouvernements devront travailler en priorité, justement, sur ce changement climatique, en ayant une nouvelle politique, peut-être agricole aussi?
Ah ben là, on attend ce que va nous préparer ce gouvernement de droite et d'extrême droite sur la question agricole. Je crains, les agriculteurs étant toujours dans l'attente des promesses qui ont été faites en juin, je crains qu'on aille vers un recul environnemental et vers un abaissement des normes, puisque bon, c'est ce que dit systématiquement le RN. Donc ça veut dire qu'on va continuer à aller vers plus de pesticides, plus de pollution de l'eau, des solutions à courte vue, une agriculture de plus en plus intensive. C'est pas comme ça qu'on va construire un modèle qui sera durable dans le temps. En fait, on emmène les agricultures résolument dans le mur, sous la pression de la FNSEA, certes, mais aussi par manque de courage politique.
Alors, le courage politique, on l'a vu à gauche, hein, il y a eu cette proposition de Première ministre, Lucie Castet, qui n'a pas été retenue par l'Élysée, en l'occurrence. Voilà, alors pour l'instant, on va mettre le pour l'instant en suspens. Est-ce qu'il y avait un espoir à gauche qui était... En tout cas, est-ce qu'on a ressenti cet espoir dans la population française, qui a clairement dit non à la politique d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on était à deux doigts de le toucher, cet espoir, si j'ose le dire comme ça? Est-ce que, finalement, le point de bascule a été très proche?
Non, mais il y a toujours un espoir à gauche, et je crois que Lucie Castet et d'autres incarnent parfaitement cet espoir. Ce qui s'est passé pendant cette campagne, c'est qu'on a vu que l'unité de la gauche, c'était extrêmement porteur pour... l'ensemble de militants du milieu associatif, de quelque chose qui dépasse largement les partis politiques. Hein. Nous, on a fait des campagnes avec plus de 200 personnes pour venir coller des affiches sur Saint-Brieuc. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude quand on est juste dans le cercle des adhérents des partis politiques. Donc,
ce cercle, finalement.
Ah oui, on atteint réellement la société civile. Donc le Nouveau Front Populaire, c'est ce qui n'a pas été le cas du tout avec la NUPES. Mais là, le Nouveau Front Populaire, on a vraiment... face à l'extrême droite, dépasser notre cercle habituel. Donc il y a un espoir qui s'est levé, ça s'est vu aussi avec les résultats électoraux. Cet espoir, il ne s'arrête pas. Maintenant, il faut qu'on soit, nous, dans les partis politiques, extrêmement responsables et qu'on investisse dans cette idée d'unité, au-delà des divergences. Et évidemment, on vient tous... on a des sensibilités un peu différentes à gauche, il y a une forme de biodiversité.
Il y avait beaucoup de courants, finalement, beaucoup de courants qui se sont exprimés, ils ne sont pas toujours d'accord, mais le pari de fracturation de l'union de la gauche n'a pas fonctionné, en tout cas dans le camp présidentiel.
Macron a essayé, hein. C'est-à-dire que même avec des hypothèses comme ça, un peu farfelues, comme Bernard Cazeneuve, là, Macron a tout fait, et c'était son pari, je crois, depuis le départ, depuis la dissolution extrêmement rapide, comme ça, c'était de chercher à fracturer complètement la gauche. Eh bien, la gauche a tenu, la gauche va continuer à tenir, et j'espère que la gauche va tout faire, je le crois, hein, parce qu'on doit répondre à l'espoir de nos électeurs, à l'espoir de tous les militants qui nous ont joints. La gauche doit construire une solution, une candidature unique pour la prochaine présidentielle, et je crois qu'il faut qu'on s'y mette assez vite, parce que, effectivement, la prochaine présidentielle, on voit que Édouard Philippe s'est déjà lancé, par exemple. C'est pas certain que ça soit en 2027, ça pourrait être beaucoup plus tôt que ça. Ce qui veut dire qu'on a du travail... Voilà, pour régler, nous, les questions de désignation des candidats, parce qu'on voit bien que ça ne va pas se faire au consensus, qu'on ne va pas tous miraculeusement tomber d'accord sur un nom de candidate, j'espère, ou de candidat pour la présidentielle. Mais voilà, si on doit se lancer dans un processus comme ça de primaire, ça peut être, je pense, quelque chose de très porteur aussi.
Alors, on parlait de l'état d'esprit des Français. On en a parlé souvent à ce micro, de cette fracturation de la société française. Si demain l'espoir n'était pas au rendez-vous, si finalement la gauche ratait le virage, si vous me permettez cette image, vous craignez que le pays devienne non seulement ingouvernable, mais qu'on aille plus loin, que les Français se rebellent, soient en colère? Alors, on a entendu parler de guerre civile, on va parler jusque-là, évidemment, c'est pas le... Mais d'une grande colère, de grands mouvements sociaux, par exemple.
Non, mais je crois que de toute façon, on va vers une période de grands mouvements sociaux, même si la gauche, voilà, comme en 1936, la gauche était soutenue par les mouvements sociaux. Si Emmanuel Macron s'entête, essaye de tirer jusqu'en 2027 un gouvernement soutenu par l'extrême droite contre les Français, là, oui, je pense que s'il n'y a pas quelque chose de fait, là, rapidement, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais s'il n'y a pas quelque chose de fait rapidement sur les retraites, sur les salaires, si on s'enferme dans une politique austéritaire, effectivement, en octobre, on va voir ce que vont faire les syndicats, mais il y a une colère dans le pays. Elle vient en partie des électeurs de gauche qui ont été volés, faut être clair. Là, on est carrément dans un vol d'élection. Et puis aussi des électeurs d'extrême droite. Donc, il peut y avoir une coagulation comme ça qui est pas souhaitable, mais qui est malheureusement, qui pourrait être de la responsabilité du président de la République.
Alors, 11 millions d'électeurs ont porté leur voix sur l'extrême droite. Parmi ces 11 millions d'électeurs, on peut imaginer que tous n'adhèrent pas aux idées du parti de Madame Le Pen, mais sont très en colère, ont envie d'un changement. Est-ce que vous comprenez, j'imagine que vous n'avez pas la réponse, mais je vous la pose quand même la question, est-ce que vous comprenez l'entêtement du président de la République ?
On est dans un logiciel assez étonnant. C'est-à-dire que comme il est arrivé comme ça avec cette idée dont on va supprimer tout en gros les partis politiques, je serais la seule solution raisonnable. Je pense qu'Emmanuel Macron se croit sincèrement comme la seule solution raisonnable. Il considère que c'est impossible de mener une autre politique que la sienne. Donc une politique de gauche chasserait forcément une catastrophe. Alors les chiffres lui donnent tort, la dette, elle est terrible, on a 9 millions de pauvres dans ce pays, mais pour autant, il est persuadé d'avoir absolument raison. Il sert aussi des intérêts financiers, il y a un certain nombre de milliardaires qui sont toujours, qui ont soutenu sa campagne, et c'est une politique qui est faite pour la classe dominante, pour faire très vite, en tout cas pour les ultra-riches, et il veut pas sortir de ça. On est dans ce qu'on a vu dans l'ultralibéralisme dans les années 90 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, enfin dans les années 80-90 avec Thatcher et Reagan, sauf que nous on l'a plutôt en retard. Il y a beaucoup de pays maintenant qui commencent à essayer de mettre quand même un peu plus de régulation. On voit bien qu'avec les désordres écologiques, on a besoin de revenir vers une forme d'économie mixte. Et puis nous, on reste dans l'espèce de tentation du libéralisme complètement à contre-courant. Non, je pense que Emmanuel Macron est vraiment dans cette idée que finalement, c'est lui qui a raison et que les Français qui n'ont pas voulu le réélire ont tort et que comme il est président de la République, il va essayer de tirer tous les fils pour faire comme s'il avait gagné une élection qu'il a perdue.
Avec une instabilité un peu au parfum de 4e République, parce qu'on imagine bien que la motion de censure peut arriver vite, même sur le futur gouvernement Barnier dont on ne sait pas grand-chose. À l'heure où l'on se parle, le gouvernement n'est pas constitué. Mais on a déjà entendu des voix. On évoquait François Hollande tout à l'heure. François Hollande qui a dit publiquement que lui, il censurerait le gouvernement de Michel Barnier parce qu'il estime que Michel Barnier mènera une politique de droite sous le regard du Rassemblement national. Ce sont les termes de l'ancien président.
François Hollande a totalement raison là-dessus. De toute façon, l'ensemble du NFP va censurer ce gouvernement. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre une politique générale. On voit bien que la composition de ce gouvernement est un scandale démocratique et qu'on ne va pas s'associer à ça. Donc la gauche censurera ce gouvernement, ce qui veut dire que quand le RN le décidera, ce gouvernement va sauter. Bon. Il y a une forme d'instabilité qui a été voulue par le président de la République. Il y avait des institutions qui étaient assez claires. On nomme le NFP. Bon, je ne vais pas me répéter avec ce que j'ai dit tout à l'heure. À la limite, si le premier gouvernement Castex avait sauté, on aurait pu s'imaginer être obligé de composer un gouvernement un peu plus relié centre-gauche. Mais là, il n'a même pas donné sa chance au Parlement, finalement. Il veut conserver les pouvoirs, alors que les choses devraient se jouer au Parlement, entre les parlementaires, et en donnant la priorité au groupe parlementaire qui est le plus nombreux. C'est quand même... vous avez parlé de la 4e République, le problème c'est qu'on est dans la 5e, et qu'on se rend compte qu'avec la tripartition, la 5e, elle est beaucoup plus instable, et elle donne beaucoup trop de pouvoir. Bon, ça fait très longtemps, nous les écologistes, qu'on dit ça, qu'il est temps de passer à une 6e République, à quelque chose de plus parlementaire. Elle donne finalement beaucoup trop de pouvoir au président de la République.
On a entendu parler de proportionnelle. Alors c'est Marine Le Pen qui a dit nous on va être attentifs à ce que la proportionnelle soit réintroduite dans l'élection législative. Est-ce que c'est une bonne idée cette idée de proportionnelle ?
Il y a déjà une proposition de loi qui a été déposée au Sénat par Mélanie Vogel, qui est une sénatrice écologiste. Donc nous, c'est une vieille revendication. C'était aussi dans le programme du nouveau Front Populaire. Faudra faire très attention à ce que ce soit une proportionnelle très transparente. Alors on verra s'il faut que ce soit régional ou national, mais en tout cas avec un cadre assez large. Il faut pas que ça soit cosmétique. Il s'agit pas qu'on ait 20% de proportionnelle. Voilà, on passe réellement à la proportionnelle. ça réglerait effectivement une partie de la question, mais là il faut aussi que on ait un président de la République qui du coup se mette complètement en retrait, parce que si on a une élection à la proportionnelle, bah là il faudra demander voilà, au premier parti de former une coalition. Ça impliquera un dialogue approfondi, mais ça c'est structurel. Là du coup, si on a la proportionnelle, il n'y a pas le choix. Un dialogue plus approfondi entre les partis politiques, ça veut dire que les coalitions, au lieu de les faire avant, on les fera après l'élection, en fonction du résultat et de la représentativité de chaque parti. C'est évidemment quelque chose de plus démocratique auquel il va falloir s'habituer. Ça voudra dire qu'il faudra un peu de temps aussi pour former des gouvernements, mais là, ça ne sera plus à cause de la volonté du président de la République, ça sera le temps nécessaire au fonctionnement de la démocratie.
Voilà, le temps de la démocratie, on pourrait le dire comme ça.
Ce que font les grandes démocraties autour de nous.
Hein. Voilà, les coalitions, hein, on en entend parler beaucoup, tenez, chez nos voisins d'Outre-Rhin, par exemple, en Allemagne. À l'échelle locale, ça bouge aussi. On a vu hier l'annonce de 3 conseillers régionaux qui vont rejoindre la majorité régionale, à savoir la majorité du président de région, Loïc Chesnais-Girard. Est-ce que même à l'échelle locale, ces élections finalement créent des remous et interrogent ?
Je pense que ce sont deux sujets qui n'ont qu'assez peu de rapport. En l'occurrence, les écologistes se sont clairement positionnés dans l'opposition au Conseil régional. Voilà, on a un des problèmes sur la région de choix politiques. Au niveau des algues vertes, au niveau de l'énergie, au niveau de la pêche, on ne peut pas être écologiste et demander à aller financer davantage de chaluts, enfin, continuer avec la pêche industrielle, dire comme Loïc Chesnais-Girard qu'on va réduire de 50% à l'horizon 2050 les émissions de CO2 liées à l'agriculture, ça veut dire que la Bretagne sort de l'accord de Paris, c'est ça que ça veut dire, hein, parce que ce n'est pas 50% qu'il faut faire, c'est 80-90 à l'horizon 2050, donc... la politique de Loïc Chesnais-Girard, pour l'instant, elle ne correspond pas. Il n'y a pas dans le fond des indicateurs qui nous permettraient, à nous écologistes, de la rejoindre. Donc après, il peut y avoir des parcours individuels, mais ça n'a plus rien à voir avec les écologistes.
Voilà, alors là, en l'occurrence, c'était des représentants, enfin en tout cas des conseillers régionaux plutôt proches de la majorité présidentielle, hein, qui
d'accord.
ont rejoint...
ça m'étonne moins, mais j'avais entendu, voilà, il y a eu aussi quelque chose autour de ça chez les écologistes, mais voilà, actuellement... c'est très étonnant hein, d'ailleurs, hein, voir la majorité présidentielle qui rejoint Loïc Chesnais-Girard dans une période où le NFP est complètement mis de côté. Bon, ça interroge.
Voilà, on va observer évidemment ouais. Cela de près. Vous parliez des urgences écologiques ici en Bretagne. Il y a encore eu, on en parle toujours et encore, hein, on fait de la redite depuis des années hein, sur nos antennes autour des algues vertes. Il y a eu ce sanglier mort il y a quelques jours en baie d'Ilion, à nouveau en raison des émanations des algues vertes. On n'en sortira donc jamais.
Bah, si on n'essaye pas réellement d'en sortir, on n'en sortira jamais. Ça c'est voilà, ça c'est tout à fait clair. On a eu une saison d'algues vertes assez difficile, effectivement. Je crois que c'est du côté de Morlaix aussi où on a vu une prolifération qu'on n'avait pas observée depuis longtemps. Moi, j'étais avec mon camarade André Olivreau, qui a le fondateur d'Altomarée Verte, l'un des fondateurs d'Altomarée Verte. Qui cette année a décidé de quitter Ilion parce que il avait son cabanon au-dessus de la plage et ben voilà avec l'âge aidant les émanations d'algues vertes devenaient trop insupportables pour lui l'été, donc il abandonne ce projet de vie. C'est assez terrible hein, quand on voit l'état des plages dans la baie de Saint-Brieuc, notamment des plages d'Ilion où le ramassage n'est pas extrêmement simple. On peut se dire qu'on ne va pas continuer comme ça. Donc, on a le député Modem du coin qui se décharge sur Vivermore en expliquant qu'il ne peut pas ramasser les algues dans la baie parce qu'on l'empêche de faire circuler son bateau, comme si avec un ou deux bateaux, on allait ramasser vraiment les tonnages d'algues vertes. Au lieu de passer un coup de fil au ministre de l'Agriculture, qui est aussi au Modem, enfin, le ministre démissionnaire, il était aussi au Modem, ça tombait bien, Marc Fesneau, pour essayer réellement de lancer un processus de transformation sur tous les bassins versant algues vertes. On le sait que c'est des nitrates d'origine agricole, on le sait que ça vient d'une trop forte concentration de cheptel sur les terres bretonnes. On peut changer aussi ce modèle économique-là.
En tout cas, il y a une grande attente. pour qu'on ne voit plus ces algues vertes. Il y a aussi, et je terminerai par là, puisqu'on parle de la baie de Saint-Brieuc, de la baie d'Ignon, tout près d'ici, alors on va faire très local là, pour nos amis auditeurs qui nous écoutent un petit peu loin, mais il y a aussi un barrage, je voulais vous entendre là-dessus, juste avant de nous quitter, un barrage, le barrage du pont Roland, du moulin Roland, puisqu'il y avait un moulin jadis, construit en 1931, ce barrage risque de passer à la démolition. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
Alors sur le barrage du pont Roland, en fait, bon, c'est un barrage qui n'est plus en fonction, qui, si on le remettait en fonction, produirait assez peu d'électricité. On est au maximum de l'électricité pour 2000 personnes, avec des frais assez importants. Et comme tous les barrages, ça gêne le cours écologique du fleuve. Donc nous, on est plutôt favorable à au moins une échancrure dans le barrage. Pas forcément la démolition de l'ensemble du patrimoine, on peut aussi juste laisser passer l'eau et garder le patrimoine industriel de 1930, effectivement. Mais il y a des cas quand même où la biodiversité, enfin l'avantage écologique ici, il est supérieur si vous détruisez le barrage par rapport à essayer de le remettre en fonction. Donc les écologistes sont favorables à une échancrure dans ce barrage.
Voilà, je voulais ajouter cette petite touche locale parce qu'on en a beaucoup parlé et on suit le dossier de très près. Yann Hamon était avec nous ce matin, co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Puis on va se revoir, il y a encore beaucoup de choses à dire autour de l'écologie.
J'espère qu'on viendra pour quelque chose d'un peu plus positif et dans un gouvernement qui sera un peu moins sous la pression de Marine Le Pen dans quelques mois.
Voilà, on va suivre là aussi le dossier et il est vaste. Merci beaucoup, belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.